France Musique. Les trésors de France Musique, Françoise Monteil.
Bienvenue à tous, nous accueillons dans nos archives, aujourd'hui et demain, l'immense pianiste et pédagogue Nikita Magaloff, que Pierre Babin avait rencontré en 1985 chez lui à Vevey, en Suisse, pour un entretien souvenir. Dans la première partie de cette émission, Nikita Magaloff évoque ses jeunes années à Saint-Pétersbourg, avant la Révolution russe, ses souvenirs de Serge Prokofiev, qui était un grand ami de sa famille, et aussi Serge Rachmaninov, devant qui il a joué à l'âge de 11 ans. Nikita Magaloff nous raconte aussi sa rencontre inoubliable avec Maurice Ravel. Nous étions sur l'antenne de France Musique en 1985.
Musique rentrait, je crois, chez moi sans que je m'en aperçoive. D'après ce qu'on dit, d'après ce qu'on m'a raconté, j'aimais toujours la musique avant que je sois conscient vraiment de quelque chose, probablement à l'âge déjà de 2 ans, à l'âge de... Tout de suite, je voulais connaître la musique, je voulais entendre la musique. Il paraît que je voulais entendre des disques, j'exigeais, que je faisais des signes. Donc c'était probablement une chose tout à fait naturelle que je devais être musicien. Consciemment, je pense que j'ai me suis rendu compte que j'aime la musique et que ça la musique m'intéresse à l'âge de 5 ans. Dans mon souvenir, c'est à peu près ça. Ma mère était un pianiste amateur, elle aimait beaucoup le piano, elle jouait, mais elle jouait comme des tas de gens jouaient. Elle jouait bien, mais nous avons eu dans l'entourage des personnages importants de la musique. Nous avons surtout très bien connu Prokofiev. Serge Prokofiev était un grand ami de ma famille, de mes oncles, et il venait beaucoup chez nous. Et mon premier souvenir, un peu, disons, un des tout premiers souvenirs, était de l'avoir connu, Prokofiev, et de l'avoir entendu au piano jouer. Et je me suis rendu compte, on m'a dit qu'il compose, et c'est ainsi peut-être que j'ai commencé vraiment à m'intéresser à faire de la musique moi-même. J'essayais, n'est-ce pas? Dans l'entourage de mon enfance, on ne jouait pas une musique absolument tellement sérieuse toujours. On jouait beaucoup de romances ciganes, on jouait de ces choses avec la guitare. J'ai entendu beaucoup de musique populaire aussi, pas toujours la musique classique. Et j'aimais beaucoup ça d'ailleurs. À ce moment-là. Et vous savez, à la fin, ça aide aussi au développement musical, quelquefois des enfants, le fait de jouer une musique qui ne soit pas trop compliquée. Thank you. ça se passait à Saint-Pétersbourg, dans ma ville natale, où je suis né, et on était en Carélie, la Finlande, qui était, faisait partie de la Russie à ce moment-là. C'était la Première Guerre mondiale. Et alors, je me souviens très bien que Prokofiev venait là. Il a écrit d'ailleurs dans notre maison, il a composé en grande partie son opéra Le Joueur, qu'on donne très rarement. Alors moi, je commençais à jouer le piano sans connaître vraiment les notes. J'allais vers le piano, j'écoutais beaucoup des enregistrements. Vous savez, déjà à cette époque, il y avait beaucoup de disques. Il y avait des gramophones, j'ai écouté surtout des chanteurs à ce moment-là. J'ai écouté Chaliapine, Sobinov, des chanteurs des airs d'opéra. J'ai connu assez vite les opéras de Tchaïkovski, Eugène Onéguin, des choses comme ça. On m'a amené d'ailleurs à l'opéra à l'âge déjà de 6 ans.
C'était Fedor Chaliapine dans Boris Godounov de Moussorgski, orchestré par Rimsky-Korsakov. C'était le 4 juillet 1928.
J'apprenais par les mains, pas avec les notes. Je la regardais jouer, je tâchais de l'imiter. Et j'ai appris des petits morceaux, des valses de Chopin, même de la marche turque de Mozart, je me souviens. Ce sont des choses que j'apprenais par les mains, sans connaître. Je ne pouvais pas lire en ce moment la musique encore. C'était un jeu, mais déjà, je crois qu'on sentait que j'avais du talent, puisqu'on m'a fait entendre par des personnes importantes. Il y avait un pianiste, Arseniev, qui était à ce moment-là. On pensait déjà que je dois commencer. Mais seulement, nous avons eu la révolution à ce moment-là.
Thank you.
J'avais 5 ans quand la révolution a commencé, et puis vers 6 ans, les choses ont commencé à empirer terriblement en Russie, pour nous en tout cas. Et alors la situation devenait vraiment très grave et même dangereuse pour des familles comme la nôtre, qui était une famille, disons, aisée, de la noblesse. Et alors, nous avons dû finalement envisager de quitter le pays. Et j'avais à ce moment 7 ans, je venais d'avoir 7 ans, quand ma mère a décidé de quitter le pays et d'aller à ce moment en Finlande, qui était tout près, mais qui était déjà indépendante du régime soviétique qui venait de s'instaurer à ce moment. J'ai des souvenirs, c'est-à-dire de ce qu'on me radisait, ce qu'on disait autour de nous, des arrestations, des fusillades de beaucoup d'amis qui ont été fusillés carrément, et qui ont été aussi beaucoup de blessés de guerre, des gens morts à la guerre. Non, j'ai des souvenirs de ce qu'on disait, et puis je pouvais m'en apercevoir aussi, parce que finalement on nous a tout enlevé. Il y avait des perquisitions dans les maisons. On a enlevé les voitures privées, on a enlevé les meubles, on a enlevé un peu tout. Mon père, il a dû à ce moment-là aussi quitter le pays, mais il est allé par un autre côté parce qu'il était engagé. Il est allé par le sud de la Russie, lui. Et ma mère et ma sœur et moi, nous avons fait une véritable fuite dans la nuit. On est parti dans des traîneaux guidés par des Finlandais. C'était extrêmement dangereux, naturellement, parce que ces réfugiés, s'ils étaient pris par des gardes frontières, étaient tout de suite fusillés, sans jugement même, parce que c'était absolument défendu de quitter. Et alors nous avons pu réintégrer la maison que nous avons eue en Finlande. On a décidé de vraiment de poursuivre un peu ces études de musique, mais c'était pas très facile tout de suite. Mais là, nous avons rencontré Alexandre Zilotti, qui était un musicien très important, chef d'orchestre, maintenant un peu oublié. Il était un élève de Liszt. Et il était le cousin de Rachmaninov et même son maître pendant un temps. C'était un grand personnage dans la musique. Il a vécu très longtemps. Il a fini sa vie aux États-Unis. Et Zilotti, c'était peut-être lui qui était le premier qui m'a appris à lire la musique. J'ai eu la chance d'avoir ce contact avec lui, je dois dire. Mais ça a duré très peu de temps. Finalement, j'ai eu un professeur de piano qui était local un peu. Mais j'ai commencé à ce moment déjà un peu à étudier le piano et aussi toujours à composer parce que j'aimais beaucoup la composition. Maintenant, c'est une chose qui est un peu oubliée parce que j'ai tout à fait lâché ça. Mais il faut dire que c'était Prokofiev, par exemple, avec qui je suis resté en contact. C'est très long à raconter tous les détails. Il a, lui, toujours pensé que j'étais plus doué pour la composition, que c'était plus intéressant. Il a dit ça à mes parents. Il continuait à le dire tard, déjà, lorsque j'étais un jeune homme, qu'il fallait poursuivre la carrière de compositeur et pas de pianiste. Parce que le pianiste, il disait, il y en a beaucoup, mais les bons compositeurs, pas tellement. Mais j'ai arrêté de composer à peu près vers l'âge de 25 ans. Parce que j'avais, à ce moment, j'étais extrêmement intéressé par le répertoire. Je voulais vraiment apprendre le plus possible et malheureusement, je n'ai pas eu cette capacité qu'ont eu certains très grands artistes comme Liszt ou Rachmaninov de faire les deux choses à la fois. Et c'est arrivé, il y a eu des cas comme ça. Prokofiev aussi même, mais Prokofiev a très vite abandonné le répertoire pianistique pour le... Mais moi, je me souviens encore de l'époque où Prokofiev, lui, jouait du piano à autre chose que ses compositions. Il donnait même des récitals auxquels j'ai assisté, où il jouait d'autres compositeurs.
Thank you. Thank you.
Les trésors de France Musique.
C'était le 3 mai 1973. Nick Tamagalov jouait le 5e concerto de Prokofiev. Il était accompagné par l'Orchestre philharmonique de Berlin que dirigeait Gabriel Schmoura. Mais Nick Tamagalov, quelle est la figure marquante pour vous parmi tous ces pianistes?
La grande figure marquante, oui, c'était peut-être Rachmaninov, que j'ai connu plus tard, au point de vue piano. Je dois dire que c'est le pianiste qui m'a le plus impressionné, certainement. Mais je l'ai connu plus tard. J'ai joué même pour lui lorsque j'avais 11 ans. J'ai appris beaucoup en allant dans ses concerts. N'a jamais eu d'élève et ne donnait jamais de leçons de piano. l'art de piano, si on commence sur ce chapitre, on peut parler longuement. Moi, je crois qu'il faut une vie pour apprendre vraiment, parce qu'on découvre tout le temps quelque chose. Même arrivé à l'âge, à mon âge maintenant, je découvre continuellement des secrets, des choses extraordinaires. Je dis, comment est-ce qu'on n'y a pas pensé qu'avec un tel toucher, en changeant telle chose, on peut arriver à un autre degré, à une autre couleur et tout ça. Donc, non, c'est pas ça au début. Mais je crois que j'ai entendu du très bon piano très tôt dans ma vie. J'ai entendu des artistes comme Ignaz Friedman, qui était un grand pianiste, et j'étais toujours frappé et intéressé par le côté sonore de l'instrument. Ma mère elle-même, quoiqu'elle était tout à fait amateur, avait un très joli toucher. C'était une de ses grandes qualités. Parce que le piano en soi, si on met les mains sur les touches, ce qui se produit n'est pas vivant, je trouve. Il faut savoir manier ces touches, n'est-ce pas? C'est ça. Et c'est infini. Il y a des façons de l'aborder. C'est ce que j'appelle aussi la technique, parce que souvent on dit le mot technique, c'est de la mécanique simplement, d'avoir des doigts très forts, des doigts très rapides, ça ne suffit pas. Il faut que ça soit que le son soit beau, qu'il y ait une différenciation dans la sonorité. Et alors, de mener les voix, le piano doit tout faire, c'est un orchestre. Nous devons trouver tout dans le piano. Il faut s'accompagner, il faut créer des voix, il faut faire la polyphonie, il faut faire tout ça. Et alors pour ça, il faut une indépendance énorme avec les 10 doigts, une grande connaissance. Et ça, ça prend un travail d'une vie, je le dis toujours.
Nikita Magaloff, le piano était un jeu pour vous dans la grande maison de votre enfance avec votre mère. Mais ce jeu, quand s'est-il transformé en un éblouissement nécessaire? Quand avez-vous commencé véritablement à aimer la sonorité?
Oui, je crois que oui, c'était, je me souviens bien, je crois que c'est justement en écoutant Rachmaninoff que j'ai eu ce sentiment. Mais aussi, j'ai été absolument subjugué par la sonorité de la musique de chambre, des quatuors. J'étais très vite fasciné par ça. Et aussi, quand j'ai entendu pour la première fois, je me souviens, Kreisler, j'étais absolument aussi ébloui par le son qu'il produisait sur le violon. Je n'avais pas eu tellement de contact avec d'autres personnes parce que j'étais un enfant assez isolé, je dois dire en général. Ensuite, j'ai fait des études plus tard au conservatoire, mais c'était beaucoup après. Et j'ai eu des contacts avec mes camarades, naturellement, de classe. Je vous ai dit que nous étions en Finlande, mais nous n'étions pas établis tout longtemps. Nous avons été aux États-Unis. J'ai passé 3 années aux États-Unis. Malheureusement, là, j'ai pu entendre beaucoup de grands pianistes. J'ai entendu Joseph Hoffmann, j'ai entendu Gabrilovitch, j'ai entendu Rachmaninoff, Joseph Levin. Enfin, on me menait à des concerts. Et j'ai écouté avec grand intérêt. Et le répertoire m'a énormément intéressé. Par exemple, quand j'allais à des concerts, je voulais tout de suite tout rejouer. C'était pas du tout que je jouais très souvent des choses qui n'étaient pas du tout dans le programme que les professeurs me disaient de jouer. Je lisais. C'est comme ça que j'ai appris d'ailleurs à lire. C'est un conseil que je donne beaucoup à des jeunes, de lire autant de musique que possible pour connaître la musique. Moi, à l'âge de 10 ans, je me rappelle que déjà je connaissais absolument toutes les sonates de Beethoven. Comme ça, les entendre, je les lisais mal et je jouais certainement très mal, mais je pouvais le faire et je savais reconnaître en tout cas. Et tandis que très souvent, et je connaissais l'œuvre presque entière de Chopin déjà, et beaucoup de Schumann. Par curiosité, j'avais toujours ça en moi, cette envie de connaître la musique. Et alors, comment la connaître? À ce moment, il n'y avait pas très peu d'enregistrements. Vous savez, nous sommes maintenant dans une autre époque. Nous sommes dans une époque où tout le monde peut entendre des disques, ça. Et alors, ça aide certainement. Mais à ce moment, il fallait le faire soi-même. Alors, on nous apprenait aussi à jouer à 4 mains. À lire à 4 mains, et ça je faisais aussi même avec ma mère, on lisait tous les symphonies de Beethoven qui étaient transcrits, on a fait les symphonies de Brahms, on connaissait tout ça. En lisant, à ce moment on pouvait d'ailleurs se procurer une littérature à 4 mains de tout, de la musique de chambre, de quatuor, de trio. Alors ceci permettait d'avoir un horizon beaucoup plus vaste.
Thank you.
Mon père n'était pas vraiment musicien, il ne jouait en tout cas aucun instrument, il aimait simplement la musique. Alors je jouais naturellement, mais plus tard, quand nous avons quitté les États-Unis et nous sommes rentrés en France, c'est justement mon père à ce moment qui s'est un peu occupé de moi et qui cherchait à trouver un professeur à Paris, n'est-ce pas, pour moi. Et il m'avait demandé à ce moment si j'avais une idée. Et moi j'avais l'idée, j'ai admiré énormément Ravel, vous savez, connaissais sa musique. Et je me dis, mais Ravel serait une personne sans pensée que j'aimerais tellement connaître et peut-être qu'il ferait quelque chose. Alors mon père, c'est absolument pas une histoire inventée, vous savez, il a écrit une lettre à Ravel et pensait que Ravel lui-même est arrivé dans l'hôtel où nous habitions à ce moment, et il a apparu lui-même, il a dit, vous m'avez écrit une lettre, que vous avez ce fils, que vous... Eh bien, je vais vous recevoir, je vais l'écouter. Et nous sommes allés chez Maurice Ravel, chez son frère à Neuilly, boulevard Victor Hugo. Je me rappelle si bien, c'était une énorme impression pour moi, moi j'avais 12 ans. Et alors j'ai joué pour lui mes compositions, ce que j'avais. Et alors, il a dit beaucoup de choses, mais il a immédiatement, naturellement, dit qu'il n'est pas un professeur de piano, qu'il n'y a pas question et que nous devons trouver quelqu'un d'autre pour faire ça. Mais tout ce qu'il a dit reste assez inoubliable pour moi. D'abord, il s'est mis au piano, il a montré qu'il faut différencier. Je vous en parlais tout à l'heure de cette différenciation. Ça venait en grande partie de Ravel, je me souviens, il disait qu'il faut, quand on s'accompagne, savoir qu'il ne faut pas faire les mêmes dosages de sonorité que pour une mélodie, c'est un autre dosage, tout ça. Il dit que c'est une importance. Et puis il a dit en plus une chose qui était frappante, peut-être paradoxale, il a dit qu'il faut connaître la musique moderne. Il a dit qu'il faut apprendre d'abord la musique moderne et après la musique classique. Voilà. Tout ce qu'il a dit me reste dans mon souvenir. Je ne comprenais pas très bien, je parlais mal le français, peu à ce moment. Et alors, mais quand même, je n'oublierai pas ça. Par la suite, mon père, nous sommes adressés à Isidore Philippe, qui était le grand professeur du conservatoire, à ce moment très célèbre à Paris, et qui m'a entendu, qui avait trouvé que je n'étais pas vraiment préparé encore pour entrer dans sa classe, et qui m'a dirigé vers une assistante à lui, qui était excellente, qui s'appelait Madame Chaumont, et qui m'a énormément aidé. Mais le programme qu'il m'a fait donner, on l'a quand même été de nouveau chez Ravel, pour dire ce que Philippe a conseillé que je joue. Et Ravel n'a pas du tout approuvé ça, il a trouvé ses études inutiles et tout ça. Sur quoi de nouveau? Mon père a parlé avec Philippe, il a dit, voilà, que M. Ravel ne trouve pas, mais alors là, l'autre s'est fâché carrément en disant qu'il ne doit pas se mêler de ça du tout. D'ailleurs, Philippe était plus âgé que Ravel. Et alors, ce qui fait qu'il n'a pas du tout été impressionné par ça, par ses remarques. Malheureusement, je n'ai plus revu Ravel après, n'est-ce pas? Et c'est que lorsque j'avais joué à la fin, j'ai eu mon premier prix, je crois qu'il a été dans le jury de ce concours. Mais moi, je ne l'avais plus le contact avec lui. Il était en train de composer L'Enfant et les Sortilèges à ce moment. Oui, ça c'est un grand souvenir, mais malheureusement trop court. Et à cette époque-là, je suis entré au conservatoire, mais je continuais toujours à composer. Et là, j'ai retrouvé Prokofiev, qui habitait à ce moment Paris aussi. Alors, avec Prokofiev, nos relations sont restées toujours très liées. Il suivait même mon piano aussi, quoique ça ne l'intéressait pas énormément, mais je lui jouais régulièrement. même mon répertoire, et puis j'ai joué pour lui mes compositions. Il m'a beaucoup aidé. J'ai composé un concerto, il m'a aidé pour l'orchestrer. Aussi, il m'a présenté à Koussevitzky, qui était aussi, il avait une édition très importante à ce moment, l'édition russe de musique, où on m'a édité une toccata que j'avais écrit, une sonatine pour violon. Et parce que ça, c'est alors, nous arriverons à un autre chapitre maintenant un peu.
Vous avez eu la chance de rencontrer Maurice Ravel. Avez-vous aussi rencontré Claude Debussy?
Non, ça malheureusement pas. Et il est mort en 18 et moi, nous sommes venus en France seulement en 20. Et alors, ça n'aurait pas été possible déjà. Mais je le regretterai toujours parce que j'adore la musique de Debussy. Je joue énormément de Debussy. J'ai presque tout joué de lui. Et j'ai donné ce récital quand il avait le centenaire de sa naissance, en 62. J'ai donné un récital dédié à lui au Festival de Berlin. On me l'a demandé. Et voilà, je suis absolument un admirateur de sa musique. Je trouve qu'il y a encore beaucoup à faire là.
Thank you.
Les reflets dans l'eau de Claude Debussy, interprété par Nikita Magaloff, referme la première partie de l'entretien que Pierre Babin avait réalisé au domicile du pianiste en juin 1985. À suivre demain le second volet de cette émission. Cette archive de France Musique est disponible en podcast sur le site radiofrance.fr et via l'appli Radio France. Merci à Béatrice Trichet pour la réalisation ainsi qu'aux documentalistes de l'INA pour leur collaboration.
À réécouter sur francemusique.fr.